7h07. Changement de registre total. On va aller joindre Éric Lantier qui est au bout du fil, chroniqueur pour bien des sujets, mais généralement, on traite énormément d'éducation. Le gars a une maîtrise dans le domaine. Il a été directeur d'école. On le welcome dans l'émission. Bonjour, Éric.
Comment ça va? Allô, allô.
Salut, Éric.
Fluent dans les deux langues.
Bonjour, Éric. Bonjour.
Fluent dans les deux langues aujourd'hui, Éric, mais c'est pas le sujet. On va parler plutôt de sexualité chez les jeunes, à commencer par quelque chose qui est paru qui parlait d'être accro à la pornographie dès un âge très jeune, 8 ans.
Mm-hmm. Hey, c'est jeune.
Ben, oui, on consomme vite. On en parlait dans le Devoir en fin de semaine de ça, puis même on voit des cas d'agression sexuelle au prix scolaire dans les CPE. On en parle dans deux articles qui ont paru sur le Devoir. Ce qui arrive, c'est qu'on explique dans ces articles-là que lorsqu'un enfant est exposé à de la pornographie, et parfois c'est malgré lui, on dit, par exemple, qu'il va taper le mot chat ou chatte, puis là, il va avoir des photos d'autres sortes de chats.
Oui, ouais, il existe des contrôles parentaux.
Oui, ben c'est ça. Il y a des parents qui se disent, ben ils sont jeunes, il n'ira pas là-dessus. Et puis, mais ce que ça produit, c'est que ça produit un traumatisme qui est équivalent à la peur, à un film d'horreur.
Okay.
La peur que ça génère là, dans le cerveau puis dans son développement émotionnel, il y a comme un traumatisme et les images leur restent dans la tête et ça active leur curiosité. Donc, ils ont le goût d'aller revoir ces images-là parce qu'ils comprennent pas c'est quoi. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu un sexe féminin, j'avais 5 ans. Je pensais que la fille avait subi une opération dans ma tête. La fille portait un pénis comme moi. Je dis, comment ça, là, une craque? J'étais traumatisé, moi, quand j'ai vu ça, là, à 5 ans. Là.
C'est intéressant. Ben, on a, oui, tous des souvenirs de que ça fesse, là, quand on découvre la sexualité à ces âges-là. Puis là, si c'est avec un vidéo de hard, c'est sûr que ça...
C'est autrement plus traumatisant qu'une photo. Là.
Fait que ça peut découler sur bien des affaires. Monsieur Demers?
Ben, je veux dire, si le jeune, il est témoin de pornographie, ben, de violence, et lui, il va pas avoir tendance à reproduire ce modèle-là.
Ben oui.
Peut-être à le normaliser.
Il y en a un peu de violence dans de la pornographie. Tu sais, quand t'es adulte, tu comprends que ça peut être un jeu de rôle, puis etc.
C'est pas forcément la réalité.
Mais non, mais à 8 ans, à 5 ans, ouais.
C'est grave, là.
C'est clair.
Oui, tout à fait. Donc, c'est les nouvelles réalités que les enseignants, auxquelles les enseignants font face, les éducateurs, les éducatrices dans les CPE. Et le problème, c'est que il y a des enfants qui reproduisent certains comportements ou qui sont stimulés à agresser sexuellement puis à forcer d'autres jeunes à entrer dans des contacts sexuels. Et ces articles-là nous dépeignent un portrait qui quand même préoccupant, surtout quand on parle de 6, 7, 8 ans et même dans certains cas, 4 et 5 ans. Donc, moi, ça m'a préoccupé de voir ça et de dire maintenant, il faut faire face à des nouvelles réalités et encadrer les jeunes d'une autre façon.
Vois-tu?
Souvent sous le prétexte d'un jeu entre les deux. Les deux personnes.
On parlait de contrôle parental sur les ordinateurs. Moi, tu sais, je suis pas le plus compétent des gars au monde, là, juste à penser à ça, là, j'ai une envie de gosser pour trouver ça. Mais je vais le faire, là, puis je vais le faire assez de bonheur. Il y en a un petit qui s'en vient dans mon cas. Là, c'est là, en bas de 2 ans, il jouera pas avec ça.
C'est moins stressant, mais ça s'en vient vite.
Je suis prêt, là. Je viens de pogner 2 minutes. Là. Ouais, peut-être que j'espère que je suis pas le seul. Bon.
Oui, c'est ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est aussi les pistes de solutions. Évidemment, dans certains cas, c'est nécessaire d'aller consulter. Par exemple, si l'enfant a vécu une agression, si c'était pas un jeu sexuel, mais c'était véritablement une agression.
Non.
Dans le cas de jeu sexuel, eh bien, c'est pas d'aller vers la condamnation, mais d'expliquer à leur niveau. Et des fois, c'est pas toujours évident d'expliquer à leur niveau parce que nous, on a toute une réalité d'adulte. Et puis, on veut pas leur imposer notre réalité d'adulte parce qu'ils sont pas capables de la saisir et de la porter.
Mm-hmm.
C'est là qu'est le défi.
Les ordinateurs, les tablettes, les téléphones sont beaucoup trop longtemps entre les mains des jeunes de la génération qui est là aussi, ça peut être une petite piste, là, que aller donc jouer dehors puis lâcher des affaires électroniques. Se retrouver tout seul avec un ordinateur à 4-5 ans aussi, c'est pas nécessairement bon et sain. Faut penser à ça un peu. Faut penser aussi à éduquer, puis ça, bon, que ça soit jeune, moins jeune. On a des cours là-dessus qui ont été amenés, ben, ramenés dans les écoles. Les libéraux ont proposé ça, là, les professeurs se sont plaints, puis on sait pas trop de quoi il s'agit, là, la population. Ça s'en vient. C'est-tu déjà commencé, Éric, ou...
Ben, il y a eu des écoles qui ont...
Oui, projet pilote.
De projet pilote, exactement, oui. En septembre, ça devrait, à moins que le gouvernement recule, ça devrait être obligatoire. Et le problème, c'est que les enseignants disent on n'est pas prêt, on est mal formé ou on n'est pas formé du tout, on n'a pas les outils qu'il faut. À ce moment-là, les sexologues disent ben, ça prendrait des spécialistes pour pouvoir récupérer certains cas lourds, certains cas qui ont vécu soit des traumatismes ou justement des agressions sexuelles qui s'ouvrent. Il faut être là pour justement traiter de la situation le plus rapidement possible. Et on n'a pas beaucoup de ressources comme ça dans nos écoles.
Ouais, mais
et là, les troisièmes, c'est les parents qui disent « Oh, un instant, là, on veut savoir de quoi il est question. Là, on ne veut pas qu'on leur enseigne n'importe quoi. » Donc, ça réagit beaucoup en ce moment.
Monsieur Demers?
Ben, c'est aussi que les professeurs... Il se questionnait aussi sur le contenu du fameux cours de sexualité.
Moi, je me rappelle de FPS. J'ai 32 ans, il y avait ça au secondaire. C'était pas très exhaustif. Il parlait...
Formation professionnelle scolaire.
Et sociale.
Sociale, t'as raison.
Il parlait beaucoup...
Je l'ai enseigné, ce cours-là, moi.
D'hygiène, ah ouais. C'était axé sur l'hygiène assez fortement. Le reste, là, pour ce qui est des comportements sexuels, l'acceptation, la donnée de consentement, c'était pas nécessairement très élaboré, puis c'était au secondaire. Là. Est-ce qu'on sera un peu plus prononcé dans ce domaine-là? Là?
Oui, ce qui préoccupe les parents, là, c'est surtout qu'on commence à parler justement de la conception dès le préscolaire, dès la maternelle, les étapes de la grossesse. Et on se dit c'est peut-être prématuré, ou du moins on se questionne de quelle façon ça va être fait.
Ouais.
Parce que normalement, lorsqu'un enfant pose des questions sur comment avoir des bébés ou comment se font des bébés, on n'a pas besoin d'entrer dans tous les détails. Parfois une simple réponse, disent ben papa et maman s'aiment, puis ils se collent, puis ça fait un bébé, puis ils sont satisfaits. Puis plus tard, ils vont poser des questions qui vont nécessiter plus d'explications, mais ça, c'est pas nécessaire de tout expliquer. Puis l'enfant est satisfait, sa curiosité est satisfaite. On va pas plus loin, ça fait partie de la naïveté d'un enfant. Il faut la respecter, il faut respecter son développement.
Moi, je viens de me rappeler que j'avais un livre, moi. Et puis, bon, c'était quand même... Je sais pas à quel âge mes parents m'ont donné ça, mais c'était quand même assez bien décrit. Mais encore là, c'était le choix de mes parents. C'est pas à l'école, nécessairement, à jeune de même, imposer ces connaissances-là qui, c'est vrai, sont pas si nécessaires dans bien des cas à un jeune âge. Ouais.
Ben oui, moi, j'ai utilisé une fleur, par exemple, expliquer comment se reproduit une fleur. Mmh. Et au fur et à mesure que mes enfants me posaient des questions, je ramenais la fleur. À un moment donné, ben j'ai pu expliquer la reproduction d'une fleur, c'est comme la reproduction d'un enfant avec un papa et une maman. Puis là, on a pu faire des parallèles au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Donc, j'ai pu commencer à leur parler de ça à l'âge de 4 ans. Et donc, quand il y avait 7, 8, 9 ans, ils étaient à l'aise d'en parler avec moi parce que, ouvertement, j'avais introduit le sujet à leur niveau.
Ouais.
Donc, pour eux autres, ça les gênait pas de... Puis moi, ça me gênait pas d'en parler parce que j'avais pas introduit toute la notion sexuelle de la chose. À 4 ans.
Est-ce qu'on peut compter sur les fonctionnaires du ministère de l'Éducation puis du Conseil supérieur d'éducation pour avoir cette logique-là? Pas sûr. C'est vrai qu'il y a des questionnements. Enfin, mais bon, pour les projets pilotes, de ce que je sais, c'était des 30 minutes à une dizaine de fois, un compte d'une dizaine de fois par année.
Mm-hmm.
Puis pour le secondaire, ça, c'est un minimum, mettons?
Oui, on parle de 15 heures dans toute l'année. Mais le problème, puis ça dérange les parents aussi, c'est que c'est pas nécessairement un cours fixe comme le cours de français qui a lieu, par exemple, à tous les jours 2 ou à tous les mardis. Mais c'est un cours qui peut être placé un peu n'importe quand en fonction là, des disponibilités des enseignants ou pour faciliter la tâche d'un enseignant qui dit « Ben, on va t'ajouter ce cours-là ou cette formation-là parce qu'il manque un 5 % dans sa tâche.
C'est un cours optionnel comme ça? Ça serait un peu, non?
Obligatoire. Il sera pas nécessairement donné dans un horaire fixe. C'est chaque école qui va devoir décider.
C'est vendredi après-midi. C'est vendredi après-midi, ils sont turbulents. Hawaï avec ce registre-là. Ouais.
C'est un peu ça. Fait que c'est ça, ça dérange aussi parce que les parents disent, ouais, mais attends une minute, on veut savoir quand est-ce que c'est donné. Comme ça, on va pouvoir en reparler à la maison après. Donc, si on le sait pas d'avance, si on n'est pas informé, alors ça dérange. Je trouve que c'est mal ficelé en ce moment. Puis c'est pas, ça sécurise pas les parents. Puis c'est ça. Donc, à ce moment-là, eh bien, le gouvernement, je pense qu'il a mal géré la sortie de ce cours-là.
Peut-être bien, entre autres choses. Peut-être qu'on en aura un autre dans quelques mois. Mais en attendant, il n'y a pas juste les parents qui sont désappointés. En général, de ce gouvernement-là, il y a les profs dont le moral est en baisse, de ce que je comprends. C'est une étude récente qui nous dit ça?
Ben, c'est ça. C'est un article qui a été publié sur la plateforme du journal Le Devoir. Et on entend Alain Marois, on peut lire les propos d'Alain Marois, qui est vice-président de la vie politique de la Fédération autonome des enseignants. Et ce qu'il constate, c'est que, bon, ça on le sait tous, les mauvaises conditions, mais une des raisons pour lesquelles plusieurs quittent, eh bien, c'est parce que il y a une surcharge de travail, mais la surcharge de travail est causée par quelque chose d'assez intéressant et préoccupant, c'est qu'il y a de moins en moins de suppléants, et donc, on demande aux enseignants réguliers de faire de la suppléance.
Ah bon?
Et là, ça veut dire que c'est pas juste les profs qui sont malades, qui disent hey, « j'ai besoin de repos, je suis tanné », mais là, les profs malades, il faut que ce soit leurs collègues qui les remplacent. Fait que là, on va les brûler, comme on dit en bon québécois, on va brûler la chandelle par les deux bouts.
J'avais pas vu ça passer. Petite question en parenthèse, Éric. Est-ce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quelqu'un avec un bac, simplement, peut espérer être suppléant dans une école?
Ben, écoute, moi je me souviens, quand j'étais au bac, j'avais pas encore mon diplôme.
Mais je parle bac en n'importe quoi, là. Moi, j'ai un bac multi-sciences politiques, communication. Je pourrais aller faire de la suppléance, là.
Ben, c'est tout dépendant d'une école à l'autre, par exemple. Une école, il y a une bonne banque de suppléants ou que leurs suppléants sont certifiés ou sont dans un programme d'éducation, ils vont les favoriser d'abord et avant tout.
Ah.
Mais dans une école où est-ce que justement sont en pénurie, ils vont prendre, ben, je dirais pas n'importe qui, mais justement quelqu'un qui est quand même éduqué, qui a un bac dans un autre domaine, qui n'a pas nécessairement une formation, qui n'est pas en formation en pédagogie, parce qu'il y a une pénurie, puis les enseignants sont tannés, puis ils se disent, ben là, moi. Mais ce qui arrive, c'est que leur collègue, s'il n'est pas remplacé, qui va le faire? Et si tu vois ton collègue le vendredi en disant hey, « tu ne m'as pas remplacé l'autre jour », ça crée des tensions, fait qu'ils se sentent obligés, ça crée un climat de travail pourri. Mais moi, j'ai trois solutions pour ça.
OK.
Pour revaloriser, justement, toute la profession, revaloriser le rôle de l'enseignant, c'est... Premièrement, réduire le temps d'enseignement. Donc, tu as la même paye, mais tu enseignes moins pour avoir plus de temps pour gérer les conflits, rencontrer les parents.
Okay.
Regrouper les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ensemble, ceux qui sont autistes ensemble, ceux qui ont des par exemple des comportements
particuliers. Ouais, on en a déjà parlé, oui, là-dessus, évidemment, que sinon ça draine un peu par le bas. Ouais.
Et promouvoir l'innovation pédagogique. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, puis avec tous les téléphones qu'on peut enregistrer, qu'on peut filmer, de voir à ce que des enseignants puissent filmer leur innovation pédagogique.
Oui.
Développer, par exemple, des ressources au sein du ministère de l'Éducation, où est-ce qu'ils passent des entrevues avec des enseignants, disant, bon, ben parlez-nous de votre bon coup. Puis, ça met en valeur les enseignants qui font du bon travail.
Ouais.
Et en même temps, ça stimule les autres à dire hey, c'est une bonne idée, ça. Moi, je vais le faire dans ma classe. Et ça coûte quasiment rien, ça. Et ça rend justement l'innovation pédagogique accessible à un coût vraiment bas. Et c'est ça qu'on a besoin de voir, que des enseignants sont valorisés. Ceux qui amènent les jeunes à avoir du fun en apprenant, ceux qui amènent des nouvelles façons d'apprendre, des façons originales, il faut les mettre en valeur. Parce que si on ne les met pas en valeur, on n'est pas en train de mettre en valeur la profession d'enseignant.
Non, on l'échappe. Totalement d'accord avec ce troisième point. Les deux autres, peut-être que matière à discussion, on se reprendra, mais je t'en propose une quatrième. Tu me diras ce que tu en penses. C'est de rehausser les critères d'entrée pour un bac en enseignement. J'ai l'impression que c'est un refuge pour bien des gens qui se disent « il faut absolument que je fasse un bac ». C'est pas le plus difficile, ils m'acceptent, alors sautons là-dedans, puis au bout de quelques années, ben on est dépassé, on est désillusionné, puis ben le moral est bas, parce que, tu sais, je sais pas, là, j'ai pas d'études devant les yeux, mais j'entends ça vraiment régulièrement, le moral des professeurs, quand même répété, que oui, il y a des conditions pas si faciles, mais d'un autre côté aussi, il y a des avantages assez intéressants. Ça peut se rendre au-dessus de 65 000, le salaire d'un professeur, assez rapidement. Il y a eu des belles vacances, là. Un mois et demi l'été, c'est quand même incroyable. 3 semaines dans le temps des fêtes. Tout ce qu'il y a de pédagogique est donné. Il y a des conditions là, d'à côté de job, assurance-ci, assurance-ça, etc. Avantages sociaux qui ont bien de l'allure. Alors, à un moment donné, il y a peut-être un problème à l'entrée, non?
Oui. Ben moi, sais-tu qu'est-ce que je ferais? Ben, je trouve ça intéressant. Mais moi, je ferais quelque chose de... Personne n'a jamais proposé ça. Là. C'est une primeur que je lance sur les ondes de CJMD.
Yay!
Quelqu'un, un candidat, une candidate qui veut être enseignant ou enseignante, là, tu les amènes dans une vraie classe, tu leur donnes, par exemple, 2 mois. Tu leur dis, voici la leçon que tu vas donner. Tu vas te préparer, tu vas t'exercer avec tes neveux et tes nièces, si tu veux. Et on va te mettre dans la classe et on va t'évaluer si tu as du potentiel. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir à 100% parce que c'est une des premières fois que tu prends en charge une classe. Mais on va voir tout de suite, un, si tu es fait puis si tu as encore le goût de t'inscrire.
Hein? Une évaluation du profil.
Ça serait super. Écoute, ça dure 15 minutes. Tu as 15 minutes avec les élèves, tu as une petite leçon, on te donne déjà la leçon, tu peux aller fouiller partout. Tu peux amener des vidéos, n'importe quoi. On va voir si tu l'as ou pas l'affaire. Tout de suite, ça va être clair.
C'est dans le fond une évaluation du profil des candidats.
Ben oui.
Ben en fait, il y a certains programmes qui font déjà ça. Si on parle de médecine, oui, à l'entrée, il y a des tests de compétences scolaire et tout, mais aussi des tests de personnalité pour voir s'ils ont le profil d'être médecin. Pourquoi est-ce qu'on n'implanterait pas ça pour être enseignant?
Si t'es pas capable de voir du sang, de voir ton rapport en médecine, si t'es pas capable de tenir une rencontre de parents avec un élève turbulent, des parents tout croche, ben, va-t'en pas en enseignement.
C'est une question de profil, définitivement. C'est une carrière de passion, c'est une carrière où est-ce que les gens se dévouent, c'est du dévouement, ben, ça prend un profil particulier.
Exact.
Ben oui, parce que moi, je me souviens, j'ai été superviseur de stage, puis il y avait une fille, malheureusement, elle n'avait pas la passion, puis elle était là parce que sa mère était enseignante, puis elle l'avait encouragée à s'en aller dans le plus beau métier du monde. Puis elle voulait rester parce qu'elle voulait pas décevoir ses parents. Mais s'il y avait eu cette entrevue-là dès le départ, tout de suite, on y aurait dit, ben, c'est pas ta place.
Ben, puis elle se serait probablement dit elle-même. Ben le fun. Éric, comme d'habitude.
Yeah.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
À la semaine prochaine. Éric Lantier, mesdames, messieurs, ex-directeur d'école, ex-enseignant, vous l'aurez compris, il a enseigné FPS. mon prof de FPS, là, j'en ai un, tu sais, qui... Ah, il parlait du smegma, puis je me rappelle de sa face.
Oh boy, oui, je me rappelle de ça.
T'as pas le meilleur bout, ça?
Non. Non, clairement pas.
Ça pourrait se skipper. Lave-toi là. Puis, vas-y, frotte. Là.
J'aide-toi pas.
17h26, on se gênera pas pendant la pause non plus. Vous êtes dans Politique Correct. Restez avec nous autres. Des éphémérides s'en viennent. La chronique El Donaldo. Que se passe-t-il avec notre homme orange? Plein d'affaires. Ça s'en vient, l'autre bord de ça.